L'un de ses amis, Benedetto Castelli, lui aussi mathématicien à Pise, Galilée expose ses certitudes. Sans mesure, il prend position. L'Église a tort. Celui qui a raison, c'est Copernic. Le soleil trône au centre de l'univers. À la réception de ce courrier, Castelli comprend qu'il est en possession d'une bombe. Dans un geste de panique, il renvoie la lettre à Galilée, afin qu'elle ne puisse pas tomber entre de mauvaises mains. Mais trop tard. En quelques semaines, des copies de la missive sont rédigées et diffusées dans toute l'Italie. Il ne faut pas longtemps avant que le protecteur de l'astronome, le cardinal Barberini, ait vent du scandale. Directement, il prévient Galilée. Prudence est de mise. Le pape pourrait très mal prendre une telle prise de position. Mais comment éteindre un incendie qui s'est déjà transformé en brasier? En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, l'Inquisition de Rome, terrible outil de juridiction de l'Église, se trouve en possession du courrier. Galilée, incriminé, se retrouve au cœur de la tempête. À Rome, d'aucuns le considèrent comme un hérétique, une accusation très grave qui peut conduire au bûcher. Alors que Barberini, en sous-main, tente de faire marcher son réseau pour détourner l'attention des hautes sphères catholiques, Galilée se défend grâce à un argument massue. La lettre qui circule est un faux. L'astronome est formel. Des opposants à ses travaux ont modifié le courrier afin de le faire condamner. Les instances ecclésiastiques tranchent dans le vif. L'ouvrage de Copernic est censuré en 1616. Cette mesure extrême est aussi un avertissement lancé à Galilée. Si l'astronome persiste, il aura de très gros ennuis. Galilée accepte de se ranger derrière la théorie biblique, enfin du moins officiellement. La grande histoire, elle, se remet en marche. En 1621, la mort du pape Paul V rebat les cartes, et aussi fou que cela puisse paraître. Le cardinal Barberini, le grand ami et protecteur de Galilée, est élu à la fonction suprême de souverain pontife. Il devient le pape Urbain VIII. De quoi desserrer les cordes de la censure et de la présomption de culpabilité qui menace l'astronome. Ce dernier le croit. Malheureusement, il se met le doigt dans l'œil. 4. Urbain VIII, qui fut un jour le cardinal Barberini, reçoit son grand ami Galilée comme chaque semaine. Le tout dans le cadre d'une audience privée. Le duo se connaît depuis de très longues années et a connu de très nombreuses aventures ensemble. Alors que le jour s'apprête à décliner au dehors, vins et mets succulents sont servis à l'astronome et au souverain pontife. Dans les yeux d'Urbain VIII s'immisce une lueur particulière. Il vient d'avoir une idée. Ce soir, le pape propose à Galilée une idée folle, celle d'écrire un livre qui présentera de manière neutre les théories géocentriques et héliocentriques. Urbain VIII est partisan des conclusions de Galilée. Il l'empêche, impossible, de prendre officiellement position avec son statut. Dès lors, un ouvrage neutre pourra permettre de remettre le débat au cœur de l'actualité sans provoquer de heurts. Dans un sourire, Galilée accepte de jouer le jeu. Pourtant, les choses ne vont pas se passer comme prévu. C'est une tempête sans précédent qui va s'abattre en un rien de temps sur l'Église et sur le savant. Dernier grand représentant d'une école italienne qui va entamer son déclin après lui, Frescobaldi observe ces événements de loin. Année après année, l'organiste étoffe sa palette de compositeurs et de musiciens. Sa technique subjugue, à Rome comme ailleurs. Appelé par les Gonzagues à Mantoue il y a quelques années, son art s'exporte partout avec un succès déconcertant. Le grand-duc de Toscane commence à être intrigué par ce jeune homme à la sensibilité musicale extraordinaire. Au cœur de la basilique Saint-Pierre, sa maison depuis déjà longtemps, Frescobaldi teste un nouvel éclair de génie. C'est une œuvre pour clavier, intitulée « Il primo libro di Capricci ». Sa puissance et sa sensibilité interpellent autant qu'elles fascinent. Galilée, lui, va bientôt se retrouver au cœur du scandale de sa vie. première d'Urbain VIII est de permettre aux partisans de l'héliocentrisme d'exister sans être inquiétés. D'autant que Galilée a déjà eu l'Inquisition sur le dos en 1616. L'astronome se met au travail. L'ouvrage est considérable et conséquent. Ce n'est qu'au bout de 8 ans que la commande de la papauté voit le jour. Intitulé « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde », le livre arrive sur le bureau des censeurs de l'Église pour validation. Il l'obtient. Mais à sa sortie, en février 1632, c'est la stupeur. Galilée s'est joué de son ami le pape, en faisant passer devant les censeurs une version temporaire de l'ouvrage. Alors, excès de confiance ou volonté d'imposer une fois pour toutes sa vision des choses, nul ne le sait. Mais c'est l'escalade. Dans son ouvrage, l'astronome met en scène 3 personnages à Venise. Salviati croit que le soleil est au centre de l'univers, alors que Simplicio est défenseur de la théorie inverse. Au milieu de ce duo qui s'oppose, Sagredo n'a pas d'avis et se laisse porter par le débat. Bon, pas de problème jusque-là, vous allez me dire. Eh bien, figurez-vous que si. Simplicio est un nom très connoté qui renvoie à la qualification de simplet. Or, ce personnage soutient la théorie officielle de l'Église et est tourné en ridicule page après page. Très vite, on comprend une chose. Galilée veut imposer sa théorie concernant le soleil. Provocation supplémentaire. Le livre est publié en italien, alors même que la langue latine est d'usage normalement. La manœuvre est calculée. L'italien est plus accessible et de fait, Galilée s'assure une audience élargie de lecteurs. L'Église et le pape sont décontenancés par la teneur de la publication. Le contexte des guerres de religion ne facilite pas un apaisement de la situation. Urbain VIII est persuadé d'être la cible des moqueries de son ancien ami, en se reconnaissant dans les traits de Simplicio. Très vite, la ligne rouge est franchie. Galilée est accusé d'hérésie. Un procès est diligenté contre lui. L'astronome se retrouve plongé dans un scandale sans précédent. Même son mécène, le grand-duc de Toscane, décide de le rejeter officiellement. L'instruction s'ouvre en janvier 1633. Le pape lui-même est à la manœuvre dans ce dossier brûlant. Les risques pour Galilée sont immenses. Le bûcher peut l'attendre au coin de la rue. D'emblée, on l'attaque sur son reniement de 1616. Galilée s'était alors engagé à ne plus parler de l'héliocentrisme et à ne pas le diffuser ou l'enseigner. Pour se sortir de l'ornière, l'astronome tente bien de demander une entrevue privée avec Urbain VIII, en gage d'amitié. Mais le Saint-Père rejette cette option d'un revers de main, blessé à mort par sa trahison. Enfermé dans une chambre du Saint-Office, sans possibilité de visite, Galilée se sait sur la corde raide. Son manque de soutien pourrait bien le conduire à la mort. Néanmoins, le grand-duc de Toscane se ravise. Proche du commissaire du Saint-Office, il fait passer des messages à Galilée. Cette période d'isolement semble ramener l'astronome à la raison. Il est allé trop loin. Il veut éviter de payer de sa vie ses nombreux affronts. Attention, Galilée ne souhaite pas abjurer. Il lui faut donc trouver une astuce solide pour obtenir une clémence de ses juges. Le 30 avril, devant les magistrats et une cour réunie pour l'écouter, le scientifique avoue être allé trop loin et avoir manqué d'objectivité. Je suis prêt à réfuter l'opinion de Copernic par tous les moyens les plus efficaces que Dieu mettrait en mon pouvoir. La formule est restée célèbre. En apparence pleine de repentance, elle est en réalité remplie de double sens. Le savant parvient à s'en tirer malgré un contexte très défavorable. Et le soir même du 30 avril, il peut rejoindre le palais du grand-duc de Toscane. Galilée pense en avoir terminé avec l'Église. C'était sans compter sur la haine de son ancien ami. Le pape le fait ramener devant le tribunal et fait planer la menace de la torture. Le 21 juin 1633, l'astronome se retrouve de nouveau face au magistrat. On le renvoie à ses affirmations en contradiction avec la Bible. Galilée se défend en affirmant que les propos de ces personnages ne lui appartiennent pas vraiment. L'argument est bancal et ne fait pas mouche. La vieille lettre polémique qu'il a rédigée 20 ans auparavant est exhumée. Le scientifique se défend en arguant de nouveau qu'elle est un faux. Mais la missive met à plat sa défense et il se retrouve à batailler contre le vent. L'Église tranche dans le vif. Le vieux savant, à la santé loin d'être optimale, ne sera pas brûlé vif. Au lieu de ça, on le condamne à ne plus jamais pouvoir parler d'astronomie et à être assigné à résidence. Il doit aussi abjurer sur la Bible ses croyances au sujet de la place centrale du soleil dans l'univers. Alors aveu sincère ou arraché de la bouche d'un homme lassé par les années de combat. Des études historiques récentes ont permis de retrouver la lettre originale de 1613 au cœur des débats. Il n'existe aujourd'hui plus aucun doute. Galilée a menti. La lettre n'a pas été falsifiée. Ainsi, ses aveux et son abjuration étaient certainement fins et n'avaient qu'un objectif, lui permettre d'avoir la vie sauve. Longtemps, on a cru que Galilée, en sortant du tribunal, avait prononcé la fameuse phrase « Et pourtant elle tourne » en parlant de la Terre. Il n'en fut rien. La formule est apocryphe. Elle est pourtant lourde de sens et de symboles. Cette histoire d'une amitié entre deux hommes qui se déchirent sur fond de science ne doit pas éluder l'essentiel. Copernic et Galilée avaient bien raison. Il n'empêche, bien des mystères autour de cette affaire n'ont pas encore été élucidés. C'est certainement aussi cela qui lui confère cette aura particulière. Vous ne croyez pas ?